Départ.
L'arrivée au manoir de Cressey le lendemain matin d'un chevaucheur portant fleur de lys à la manche gauche et les armes royales brodées au col produisit grand effet. On lui donna du Monseigneur et les frères de Cressey, sur la foi du bref billet qui les mandait d'urgence à Vincennes, se crurent appelés à quelque commandement de capitainerie ou déjà nommé sénéchaux. « Cela n'est point étonnant, dit Dame Eliabelle. On se sera enfin souvenu de nos mérites et des services que nous avons rendus au royaume depuis 200 ans. Ce nouveau roi m'a l'air de comprendre où il faut trouver des hommes valeureux. Allez, mes fils, parez-vous de votre mieux et hâtez-vous de trotter. Il y a décidément un peu de justice au ciel, et cela nous consolera des hontes que nous a faites votre sœur. » Elle était mal remise de sa maladie de l'été. Elle s'alourdissait, avait perdu sa belle activité d'antan. Elle ne montrait plus guère son autorité qu'en tracassant sa servante. Elle avait abandonné à ses fils la direction du petit domaine, qui n'en allait guère mieux. Les deux frères se mirent donc en route, la tête pleine d'espérances ambitieuses. Le cheval de Pierre cornait si fort en arrivant à Vincennes qu'on pouvait bien penser que ce serait son dernier voyage. « J'ai à vous entretenir de choses graves, mes jeunes sires, » leur dit Bouville en les accueillant. Et il leur offrit du vin aux épices et des dragées. Les deux garçons se tenaient sur le bord de leur siège comme des nigauds de campagne et osaient à peine approcher de leurs lèvres les hanaps d'argent. « Ah, voici la reine qui passe, » dit Bouville. « Elle profite de l'éclaircie pour prendre un peu l'air. » Les deux frères, le cœur battant, tendirent le cou pour apercevoir à travers les vitres verdâtres une forme blanche, en grand manteau, qui allait à pas lents, escortée de quelques serviteurs. Puis ils se regardèrent en hochant la tête, ils avaient vu la reine. « C'est de votre jeune sœur que je veux vous parler, » reprit Bouville. « Seriez-vous disposé à la reprendre ? Il vous faut d'abord savoir qu'elle a nourri l'enfant de la reine. » Et il leur expliqua, dans le moins de mots possible, ce qu'il était indispensable de leur apprendre. « Ah, j'ai une bonne nouvelle aussi à vous faire connaître, » continua-t-il. « C'est Italien qui l'a mise grosse. Elle ne veut point le revoir, jamais. » Elle a compris sa faute, et qu'une fille de noble sang ne peut s'abaisser à être femme d'un lombard, si bien tourné qu'il soit. Car il est plaisant d'un oiseau, il faut le reconnaître, et vif d'esprit. « Mais enfin, ce n'est qu'un lombard !» coupa Madame de Bouville, qui cette fois assistait à l'entretien. « Un homme sans avenir foi, il l'a bien montré !» Bouville baissa la tête. « Et voilà, toi aussi, il me faut te trahir, mon ami Guccio, mon gentil compagnon de voyage. » « Ne dois-je donc finir mes jours qu'en reniant tous ceux qui m'ont marqué de l'amitié ?» pensait-il. Il se tut, laissant à sa femme le soin de conduire l'opération. Les frères étaient un peu dépités, l'aîné surtout. Ils s'étaient attendus à merveille, et il ne s'agissait que de leur sœur. Aucun événement dans leur vie n'arriverait donc jamais que par elle. Ils la jalousaient presque. Nourrice du roi. Et de si hauts personnages qu'un grand chambellan s'intéressant à son sort. Qui aurait pu imaginer cela? Le caquet de Madame de Bouville ne leur laissait guère le temps de réfléchir. « Le devoir du chrétien, disait Madame de Bouville, est d'aider le pécheur en son repentir. Conduisez-vous en bon gentilhomme. Qui sait si ce n'était point l'effet de la volonté divine que votre sœur se trouvât accouchée au moment qu'il fallait, sans grand bien, hélas, puisque le petit roi est mort, mais enfin, elle lui a porté secours. » La reine Clémence, pour témoigner sa reconnaissance, ferait inscrire l'enfant de la nourrice pour un revenu de 50 livres à prendre chaque année sur son douaire. En outre, un don de 300 livres en or serait remis dès à présent. La somme était là, dans une grosse bougette brodée. Les deux frères Cressey cachèrent mal leur émoi. C'était la fortune qui leur tombait des cieux, le moyen de faire relever le mur d'enceinte de leur manoir ébréché, la certitude d'une table fournie toute l'année, la perspective de s'acheter enfin des armures et d'équiper quelques-uns de leurs serfs en valets d'armes, afin de pouvoir paraître avec avantage au lever de bannière. On parlerait d'eux sur les champs de bataille. « Entendez-moi bien, » précisa Madame de Bouville. « C'est à l'enfant que ces dons sont faits. S'il était maltraité ou qu'il lui arriva malheur, le revenu, bien sûr, serait supprimé. Car d'être le frère de lait du roi lui confère une distinction que vous devez respecter. Certes, certes, j'approuve, puisque Marie se repent, dit le frère barbu, mettant de l'emphase à son empressement. Et puisque son pardon nous est présenté par si haute personne que vous, messire, madame, nous lui devons ouvrir les bras. La protection de la reine efface son péché, et que nul désormais, noble ou vilain, ne s'avise d'en rire devant moi, je le tranche. »
« Et notre mère ?» demanda le cadet.
« Je me fais fort de la convaincre, » répondit Jean. « Je suis le chef de famille depuis la mort de notre père, il ne faut pas l'oublier. »
« Vous allez, reprit madame de Bouville, jurer sur les évangiles de ne rien écouter ni répéter de ce que votre sœur pourrait vous dire, avoir vu pendant qu'elle fut ici, car ce sont des choses de couronne qui doivent rester secrètes. D'ailleurs, elle n'a rien vu. Elle a nourri, et voilà tout. Mais votre sœur a un peu d'extravagance dans la tête et se plaît à conter des fables. Elle vous l'a bien prouvé. Hugues va quérir les évangiles. »
Le livre saint d'un côté, le sac d'or de l'autre, et la reine qui passait dans le jardin, les frères Cresset jurèrent de taire toutes choses concernant la mort du roi Jean Ier, de veiller, nourrir et protéger l'enfant qui appartenait à leur sœur, ainsi que d'interdire leur porte à l'homme qui l'avait séduite.
« Ah, nous le jurons de grand cœur, qu'il ne reparaisse jamais celui-là » s'écria l'aîné.
Le cadet montrait moins de conviction dans l'ingratitude. Il ne pouvait s'empêcher de penser, tout de même, sans Guccio.
« Nous nous informerons d'ailleurs pour savoir si vous êtes attentif à votre serment, » dit madame de Bouville.
Elle offrit aux deux frères de les accompagner sur le champ au couvent des Clarisses.
« C'est trop de peine vous donner, madame, » dit Jean de Cresset. « Nous irons bien nous-mêmes. »
« Non, 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 non.
Il faut que j'y vienne. Sans mon ordre, la mère abbesse ne laisserait point sortir Marie. »
Le visage du barbu se rembrunit. Il réfléchissait.
« Qu'avez-vous ? » demanda madame de Bouville.
« Voyez-vous quelques difficultés ? »
« C'est que... je voudrais auparavant acheter une mule pour y faire monter notre sœur. »
Alors que Marie était enceinte, il l'avait fait voyager en croupe de Naufle à Paris. Mais maintenant qu'elle les enrichissait, il tenait à ce que son retour s'effectuât avec dignité. Et puis la mule qui servait à Dame Eliabelle était crevée depuis le mois précédent.
« Qu'à cela ne tienne, » dit madame de Bouville. « Nous allons vous en donner une. Hugues, commande donc qu'on selle une de nos mules. »
Bouville accompagna jusqu'au pont-levis sa femme et les deux frères Cresset.
« Je voudrais être mort pour cesser enfin de mentir et de craindre, » pensait le malheureux homme amaigri, frissonnant en regardant la forêt décharnée.